Alors dans l'introduction, tu m'avais dit que le web apparemment avait un peu changé par rapport à ce que j'avais fait il y a 10 ans. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
Oui, ça a un petit peu changé maintenant, effectivement. Peut-être un peu vieilli aussi, je ne sais pas. Donc, tu l'as très bien dit en introduction, aujourd'hui, connaître une techno, surtout en web, ce n'est pas suffisant. Et en fait, on a donc le front, le back, on a des outils aussi. Donc, côté front, on a quelques exemples ici avec de l'HTML, du JavaScript, du CSS, c'est les langages de base. Côté back, on a aussi des technos et des langages de base. Et en mauve ici, vous voyez quelques exemples de techno, de framework qui vont venir compléter ces langages pour vous aider au quotidien, pour développer dans le monde du web. Et puis côté outils, on a des choses, on a vu tout à l'heure Yeoman avec Sébastien, il y a plein d'outils comme Gulp, Grunt, il y a Vorlon aussi pour faire du test à distance et ce genre de choses.
Et il en manque qu'un, non, côté front, Atlas.
Alors, il manque Atlas, mais aussi parce que plus personne ne sait ce que c'est. Mais aussi, je pense que si dans la salle, on prend un développeur web, n'importe qui, je pense que vous pouvez trouver quelque chose là-dedans qui n'est pas, alors que vous l'utilisez au quotidien, parce qu'en fait, c'est impossible. À savoir, il y a toujours un dernier framework qui sort, je pense qu'il y en a à peu près 50 par jour. Il y a plein d'outils qui apparaissent tous les jours au quotidien et de nouvelles choses tout le temps. Donc, ce qu'on a décidé de faire, ce n'est pas de vous parler d'un outil en particulier, c'est plutôt de revenir à la base du web. Et la base du web, c'est le contenu. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on veut faire quand on crée un site web. On veut partager du contenu, on veut le rendre accessible au plus grand nombre de personnes possible. Donc, il faut que tout le monde puisse accéder à ce contenu-là, peu importe s'il ne voit pas bien ou s'il est même complètement aveugle, peu importe s'il est sur un téléphone, sur son navigateur sur un téléphone ou sur un Mac, enfin, peu importe, il faut que ça fonctionne toujours de la même manière. Et pour ça, aujourd'hui, ça suffit plus, on s'est rendu compte que ça suffit plus de suivre simplement les standards. Il y a un ensemble de bonnes pratiques qui ont émergé, qui va un petit peu au-delà des standards, des bonnes pratiques dans le monde du développement JavaScript, où on va essayer d'utiliser des frameworks qui sont toujours à jour, pas forcément obsolètes, des bonnes pratiques côté CSS, où on va essayer d'utiliser correctement les préfixes, ça c'est la base, mais tout le monde ne le fait pas forcément correctement, on aura un exemple tout à l'heure. Et puis aussi côté back, où il faut arrêter maintenant d'avoir un comportement différent en fonction du navigateur qui nous appelle pour lui envoyer un contenu différent. Ça ne sert plus à rien, il ne faut pas le faire comme ça. Donc au final, tout ça, c'est le web moderne, ce qu'on appelle le web moderne communément, pas que nous, mais l'ensemble du web en général, et c'est même le webmoderne.com, donc alors c'est une pré-annonce. On est en train de travailler avec Alza Création sur un site web qui va recenser toutes ces bonnes pratiques, certaines qu'on a imaginées nous et qu'on connaît nous, qu'on utilise au quotidien, mais aussi les vôtres, puisque ça sera un site web communautaire dans lequel vous pourrez participer et compléter tous les jours. Alors, donc pour vous parler un petit peu du web moderne, je vais vous parler de Toto. Alors tout le monde connaît Toto, je pense. Et Toto, alors Toto, il aime bien faire des dessins et puis il aime bien faire du bateau. Toto, il fait souvent du bateau, je ne sais pas si vous savez. Et donc, il apprend HTML et CSS et du coup, il a fait une petite page. Et cette page, en fait, il la teste. Alors, c'est un développeur web, hein, il débute, mais on lui a bien dit qu'il fallait tester partout. Donc, il la teste déjà dans Chrome. Alors, il ne dessine pas aussi bien que Étienne de chez CommitStrip, bien sûr, mais il fait ce qu'il peut. Donc, ici, globalement, on a deux divs avec une image en fond, hein, et puis il a mis son premier dessin, et par-dessus, il a mis un autre dessin. Donc là, dans Chrome, il est content, ça marche plutôt pas mal. Il va tester aussi dans Edge, hein, pourquoi pas. Donc, on va afficher la même page. Ça marche correctement, il est content, puis il teste d'autres navigateurs, et notamment, il va les tester dans IE. Qui a rigolé ? Et donc là, il se dit quand même, c'est bizarre, mon bateau, là, c'est une barque, enfin, ça va pas flotter, c'est pas possible. Il dit, bon, je sais qu'il en reste un autre, normalement, ça marche plutôt bien, puis il va aussi tester son bateau là-dedans. Et là, il est un peu déçu, quand même, parce que son bateau, dans Firefox non plus, il s'affiche pas correctement. Il se dit, bon, c'est bizarre, est-ce que c'est ces deux navigateurs-là qui marchent pas bien ? Il émet un doute. Et il va vérifier quand même dans son code. Et en fait, ce qu'il a fait, Toto, c'est que, alors c'est un code très très simple, hein. On a ici de l'HTML avec les deux divs, et il y a une feuille de style à côté qui met une image en fond, tout simplement. Et en fait, ce qu'il a utilisé, c'est quelque chose qui est, on va dire, récent, mais pas tant que ça non plus, qui est un border radius qui permet d'arrondir les angles d'un div, tout simplement. Donc vraiment, c'est un carré, enfin, c'est un carré ou un rectangle, et là, on l'arrondit. Et en fait, ce qu'il a oublié de faire, c'est qu'il a utilisé WebKit, qui en fait, du coup, il cible réellement le moteur de WebKit qui tourne dans Chrome et dans Safari. Et du coup, il a oublié la version standardisée qui existe maintenant. D'ailleurs, il utilise VS Code, il aurait pu le voir puisqu'il y avait une petite alerte. Donc il fait ça, il retourne dans IE, il rafraîchit. Là, il est content, ça fonctionne, parce que du coup, il demande bien à IE d'utiliser la bonne version. Il va dans Firefox et il fait la même chose. Alors là, il se dit deux choses. La première, c'est bizarre parce que ça marchait dans Edge. Pourtant, Edge, ça n'utilise pas WebKit. En fait, c'est simplement parce que dans Edge, on vous aide un petit peu, et si on détecte que vous avez oublié un préfixe CSS, on le rajoute pour vous, on le modifie correctement pour vous. Ça, c'est la première chose. Mais en même temps, c'est pas viable à long terme. Et donc, il vous faut des outils, parce que Toto, il dit, moi, je connais pas toutes les règles forcément par cœur, c'est un peu compliqué à apprendre. Et donc, il faut des outils qui vont nous permettre de tester ça. Donc, on en a deux qu'on va vous proposer aujourd'hui. Si je retrouve ma bonne page qui est juste ici. Donc là, j'ai une page web que Toto a développée après dans un tutoriel, peu importe la page. Et il y a un site web ici, dont je vous donnerai l'URL tout à l'heure, qui permet de scanner statiquement votre page. Vous mettez votre URL, ça va scanner la première page et ça va vous remonter les éventuelles erreurs que vous avez. Donc par exemple, ici, on voit que, alors il y a les préfixes CSS, ça me dit, bah là, attention, il y a dans ce sélecteur CSS, tu as oublié tel et tel et tel préfixe. Donc ça, c'est pas mal pour démarrer. Et puis, ça me dit également, attention, tu utilises jQuery. Et c'est une version qui a été marquée comme jQuery par obsolète. Donc il faudrait peut-être se mettre à jour pour être un petit peu plus à la page. Et puis la deuxième manière de faire, c'est d'utiliser un outil qui s'appelle Vorlon. Et donc on a ici la possibilité d'aller, donc c'est un outil open source, hein, vous pouvez le télécharger et l'utiliser gratuitement. Et donc vous mettez votre URL là-dedans. Et en fait ce qu'il va faire, c'est qu'il va un peu plus loin que ce que fait l'outil de scan statique. Il permet de reproduire l'expérience F12 classique. Donc là on voit, on a plein de choses, le DOM Explorer, etc. Je ne m'attarde pas sur ça. Mais ce qui est important, c'est qu'on a les best practices, les bonnes pratiques, ici. Et si je clique sur ce petit bouton, ça va scanner mon site web que je lui avais indiqué en paramètres. Et donc, on retrouve plein de règles qui sont ici précises. Donc là, on a les préfixes qui ne sont pas bons, par exemple. Mais on a aussi des choses comme l'accessibilité. C'est un petit peu plus compliqué à estimer en se basant juste sur les standards. Typiquement, on a une règle ici qui nous dit, attention, cette balise paragraphe qui est ici, elle a un contraste qui est trop faible avec l'élément qui est derrière. Donc les gens qui ont du mal à voir auront du mal à visualiser cet élément-là. Donc ça nous donne des indices de ce type-là. Et c'est plutôt pratique pour pouvoir comprendre comment améliorer son code.
Donc là, Étienne, tu nous as montré la partie un peu debug, cette fois-ci côté client. Et comment ça se passe côté serveur? Est-ce que les choses ont évolué? Et quelque part, comment elles ont évolué? Et surtout, comment elles ont évolué avec les technologies serveurs et en particulier Node.js?
Alors, c'est...
Donc comment pouvoir débugger
tout ça? Alors c'est une bonne question, c'est une problématique qu'on a dans tous les langages, et notamment avec du Node.js. Donc ici, j'utilise Visual Studio Code, vous l'avez déjà vu plusieurs fois dans cette présentation. Et ce que j'ai fait à cet endroit-là, c'est que j'ai démarré mon application Node.js, qui tourne avec de l'Express, j'ai démarré en debug, on peut le voir ici. Donc ce que je peux faire, c'est que je vais aller visualiser cette app. Elle est extrêmement simple, puisqu'en fait, elle fait... alors c'est moche, je ne suis pas designer, on est développeurs hein, tous les deux. Ça liste nos technos favoris, donc il y a évidemment Vorlon en premier, ensuite il y a Babylon, il y a JavaScript, HTML, etc. Et donc c'est réellement très simple. Ce qu'on peut faire dans Visual Studio, donc pour débugger en local sur son propre PC, c'est qu'on peut mettre un point d'arrêt. Alors c'est pas très propre, hein, ça charge dans un fichier texte, mais bon, peu importe. Donc si je rafraîchis ma page, après avoir mis un point d'arrêt, ça va s'arrêter dans mon code. Vous voyez ici que c'est en train de clignoter. Donc il me dit, je suis arrêté sur cette ligne-là, je peux visualiser les variables, je peux continuer l'exécution pas à pas, aller visualiser le contenu de ces variables-là. Et là, je vois qu'il m'a chargé toutes mes technos, je peux jouer avec. Potentiellement, s'il y avait une erreur, je le verrais à cet endroit-là. Donc ça, c'est en local. Et d'ailleurs, ça tombe bien, parce qu'on est content de ce qu'on a fait, et du coup, on l'a déployé dans Azure.
C'est un tout petit peu facile, finalement, de débugger en local, hein, puisque finalement, Node.js, c'est une des technologies qu'on va pouvoir un peu... déposer partout, dans des objets connectés, dans des conteneurs. Donc là, du coup, les environnements de debug, ça va être un peu plus compliqué.
Ouais, d'autant que là vous voyez que j'ai déployé dans Azure. Enfin, c'est toi qui as déployé dans Azure, je te rappelle. Et donc, du coup, là, il y a un petit problème, c'est que je t'avais donné la version avec le contenu et les différentes technos, et pourtant là, c'est vide. Et je ne peux pas trop débugger là depuis mon PC, parce que c'est dans Azure...
Alors ce que je te propose, c'est d'utiliser toujours Vorlon. Tout à l'heure, on a utilisé Vorlon pour pouvoir se connecter à un navigateur et aller débugger finalement l'instance JavaScript qui tournait au sein du navigateur. Là, Node.js, l'avantage, c'est aussi une instance JavaScript qui va tourner, mais cette fois-ci sur le serveur. Donc il y a un nouvel add-in à Vorlon qui va pouvoir permettre de se connecter au serveur Node.js. Et donc là, c'est ce qu'on voit sur les écrans latéraux. J'ai toujours la même interface. Et l'avantage, c'est qu'on détourne tous les logs d'erreur. Donc, les logs d'erreur qui tournent sur le serveur Node.js et remontés dans l'interface d'administration de Vorlon. Et là, je vois l'objet d'erreur. Et là, je t'avais dit, Étienne, je crois qu'on s'était mis d'accord dans les logs. Le fichier tech, il fallait le mettre au pluriel.
Parce qu'il y a plusieurs techs dedans.
L'avantage, c'est qu'avec Vorlon, j'ai pouvoir directement aller modifier l'instance de Node.js qui est en train de tourner. Et donc ici, dans l'interface de console interactif, je vais pouvoir modifier cette variable qui était tech file pass, rajouter le S, valider. À ce moment-là, je change la valeur de la variable dans l'instance de Node.js. Et normalement, si tu refresh, ça devrait fonctionner.
Attention, roulement de tambour. Voilà, donc ça corrige bien le problème. Et donc là, on est d'accord que le fixe n'est pas viable à long terme. Hein. Là, ça nous indique juste qu'effectivement, c'était bien le problème qu'on avait. On va pouvoir soit changer le code, soit changer le nom de fichier, une fois qu'on aura débattu un petit peu plus tard. Donc, on a vu comment on pouvait à la fois améliorer un petit peu l'expérience qu'on a côté front, mais aussi l'expérience qu'on peut avoir en debug côté back. Et donc, si on revient simplement sur les slides... On a en fait, au final, si vous voulez retrouver tout ça, vous avez deux liens à retenir, vorlonjs.io pour cet outil Vorlon open source et pour l'outil de scan statique aka.ms/webscan.
Merci Étienne.
Merci à toi Pierre.